Avant de démarrer votre épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Je fête avec vous, cette semaine, les 4 ans d'Insomnie hors de mon lit. 4 ans que le podcast a démarré. Alors pour marquer le coup, je vous ai préparé une formation spéciale sur les réveils nocturnes. Enfin, plutôt pour dire stop aux réveils nocturnes, bien évidemment. J'y détaille toutes les causes possibles des réveils nocturnes et surtout, bien sûr, quels outils vous allez pouvoir utiliser, ce que vous allez pouvoir faire la nuit lorsqu'il y a des réveils nocturnes, comment les gérer et comment faire en sorte qu'ils disparaissent. Afin que vous puissiez retrouver des nuits sereines, des nuits complètes et vous réveiller reposé au petit matin. Cette formation sera disponible jusqu'au vendredi 3 mai et à son prix exclusif de lancement. Je vous laisse aller la découvrir en cliquant sur le lien présent en description de votre épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Je suis ravie de partager aujourd'hui la discussion que j'ai eue avec le docteur Georges Mouton, qui est médecin généraliste. Mais ce n'est pas un médecin comme les autres, il pratique la médecine avec une approche dite fonctionnelle, terme qu'il contribue à démocratiser en francophonie et qui se distingue, voire s'oppose, à la médecine traditionnelle dite médecine allopathique. Nous allons parler du sommeil et de ses troubles au travers de mécanismes biochimiques, ce qui vous donnera sûrement de nouvelles pistes à explorer et des solutions à tester. Un peu plus loin dans notre échange, nous évoquerons la génomique et le lien avec le sommeil. C'est un terme encore peu connu, mais qui peut revêtir un intérêt tout particulier lorsque les insomnies sont chroniques et ou particulièrement coriaces. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela au travers d'une balade franco-belge d'environ 1h20 qui va vous emmener tout droit en campagne luxembourgeoise. Bon, c'est pas commun tout ça. Bonne écoute à tous. Georges Mouton, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Insomnie hors de mon lit pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui.
Mais moi, je suis ravie. Ah, merci d'avoir pensé à faire cette discussion assez relaxe que vous voyez. Hein, je suis en train de promener mes animaux.
Complètement. Donc là, pour mes auditrices, auditeurs, je précise que nous sommes en balade. Donc là, moi, je profite à travers l'écran du beau soleil qu'il y a chez vous. Et ah oui, on est en balade avec Goliath et avec les chats aussi.
Voilà Goliath, en tout cas. Voilà. Et alors, ça, c'est le chien Goliath. Et c'est du soleil après 3 jours de pluie ininterrompue. Infernal, mais 3 jours de pluie. Alors, c'est pour ça que je dois dire que faire cette discussion Zoom à un bureau alors qu'il fait un temps magnifique et que j'ai travaillé non-stop jusque maintenant, je dois dire que c'est un peu triste. Alors là, vous avez le deuxième animal de compagnie qui fait la promenade, c'est mon chat Oxo, vous voyez ? Et il va se joindre à nous. Voilà, vous avez la présentation faite. Il y a encore un autre chat qui est là derrière, mais je vous montrerai si elle se pointe, c'est la petite turtle. Voilà, donc...
Vous êtes, familier avec les enregistrements, les vidéos et les balades pendant que vous parlez médecine notamment. Donc, comme ça, on partage un petit peu de votre quotidien.
Voilà, on est dans mon style habituel qui n'est pas le vôtre, mais voilà, c'est gentil de votre part de vous adapter.
C'est avec plaisir. Alors, Georges Mouton, vous êtes médecin, mais comme je le disais juste avant avec vous, là, hors enregistrement, vous n'êtes pas un médecin comme les autres, en tout cas, vous revendiquez de médecine fonctionnelle. Moi, j'aimerais bien qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et parler du sommeil, vous puissiez nous en dire 2 mots de cette médecine fonctionnelle. En quoi ça diffère de la médecine dite classique, traditionnelle ? Et puis, à partir de quel moment vous vous êtes dit, finalement, la médecine traditionnelle, c'est peut-être plus mon chemin et je vais basculer vers quelque chose de nouveau. Et puis, finalement, populariser ce terme aussi en francophonie.
Très bien. Écoutez, la bascule s'est faite très tôt et il y a donc très longtemps, parce que malheureusement, j'ai 37 ans de carrière. Et il a fallu 2 ans pour me rendre compte que malgré certains succès, j'ai d'ailleurs eu des succès thérapeutiques allopathiques purs et durs en début de carrière. Probablement un peu de chance, et c'était spectaculaire. C'était enthousiasmant un court moment, et puis alors vient le moment où effectivement les problèmes commencent, parce que vous avez des plaintes répétitives de la part de patients, donc des infections à répétition, des gosses qui ont des angines qu'on soigne avec antibiotiques et puis l'angine revient, etc., etc. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas donner des antibiotiques à un gamin de 8 ans tous les mois pendant X temps. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et en fait, j'ai commencé, moi, à m'intéresser aux patients, à faire une exploration biologique, et notamment quand il y a des infections à répétition, à me dire, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas un déficit immunitaire qu'on pourrait améliorer? Et en effet, par exemple, un enfant comme ça, en croissance, il y a un manque de fer, ben, s'il y a un gosse de 8 ans n'en a pas assez de fer, déficitaire en fer, ben, il va s'infecter tout le temps. Donc, on lui donne du fer et puis il ne s'infecte plus. Et pareil, évidemment, avec d'autres choses comme la vitamine D, etc. Donc, voilà, j'ai changé, mais ça ne s'appelait pas à l'époque médecine fonctionnelle. C'est un terme, moi, je vous parle ici de la fin des années 1980. Et le terme médecine fonctionnelle a commencé à se populariser aux États-Unis dans le courant des années 90. Sous l'impulsion d'un non-médecin, d'un PhD, d'un scientifique spécialisé en nutrition, etc., qui s'appelle Jeffrey Bland. Et alors, j'ai commencé à reprendre ce terme parce que j'aimais bien médecine fonctionnelle. Alors, c'est un clin d'œil parce que là, quand j'ai fait mon internat, enfin, toutes mes études de médecine qui ont duré 7 ans, on appelait les patients fonctionnels, c'était un terme élégant entre nous pour dire que c'était des dingues. Mmh. Ils avaient un problème psy. Enfin, dingue, c'est exagéré, mais que c'était de la foutaise, que c'était tout dans leur tête et nulle part ailleurs. Quand je tourne, c'est parce que mon chien m'entortille dans la laisse. Et donc, c'était un clin d'œil. Mais le terme existait. C'est une médecine qui a été très bien développée aux États-Unis. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis alors, au fil des années, j'ai fait ma propre évolution. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que je peux dire que je pratique une médecine fonctionnelle, très personnelle, un peu différente, mais qui fait des émules, hein, et comme vous dites, qui se popularise, et j'essaye d'apporter ma contribution. Et c'est cette chaîne de vidéos YouTube qui a quand même un succès grandissant, qui y contribue. Voilà. Et puis vous, vous apporterez votre pierre à l'édifice. Donc la médecine fonctionnelle est une médecine qui s'intéresse aux causes et pas aux symptômes, qui en fait sont plutôt des conséquences. Voilà, en une phrase. Mmh. Et donc il faut une recherche. Et les solutions sont tout à fait personnalisées, personnelles, parce qu'évidemment, chaque cas est différent. Hein, et cette obsession de vouloir approcher un patient avec un symptôme, un diagnostic qu'on met sur ce symptôme et un médicament chimique pour se débarrasser du symptôme. Bon, ça peut fonctionner sur des choses simples, occasionnelles, on soulage, je vois pas de mal à ça. Mais dans tout ce qui est chronique, répétitif, invalidant et où les médicaments ne soulagent pas, bah évidemment, il faut absolument autre chose. Donc, c'est une médecine différente, il faut bien dire ce qui est, hein, et je revendique cette différence.
Complètement. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien aussi dans votre discours, c'est que vous êtes assez clivant, puis vous aimez bien les débats. Voilà, vous avez un discours qui peut, alors je n'irai pas jusqu'à dire à contre-courant, mais en tout cas qui n'est pas celui qu'on entend partout. Et dans un sens, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié depuis le début, depuis que j'ai découvert votre travail, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'étais plutôt fâchée, d'une certaine façon, je pourrais le dire autrement, mais je crois que c'était un peu le terme, avec la médecine allopathique traditionnelle. parce que je ne m'y retrouvais pas et que finalement, ça n'apportait, en tout cas, sur les 30 premières années de ma vie, ça n'a jamais apporté les solutions que j'aurais pu espérer. Et là, moi, j'ai l'impression que ça fait le pont, en fait, voilà, avec quelque chose de beaucoup plus holistique. Et c'est en ça que je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast.
Le terme holistique est approprié, hein, j'utilise souvent, parce qu'effectivement, c'est une approche globale. Et je reviens à ce que je disais, un symptôme. Vous voyez, bon, en général, les problèmes chroniques, complexes, rebelles, et bon, ça va peut-être nous faire une bonne transition vers votre sujet qui est le sommeil, sont multifactoriels. Mmh. Vous voyez. Et donc, dans les cas simples, on peut imaginer, et si ça ne vous dérange pas, je prends directement des exemples liés au sommeil, on peut imaginer quelqu'un a vraiment un sommeil horrible, et puis soit on fait un dosage, parce que je l'ai fait, notamment sur le sommeil de 24 heures, sous forme de sulfatoxymélatonine, qui est le métabolite de la mélatonine, soit par essai et erreur. Bon, quelqu'un dort mal, on lui donne une dose correcte, dose raisonnable de mélatonine, et le problème est réglé. Bon, voilà, très bien. Bon, vous savez, ces gens-là, ils regardent même les pubs hein, qui de plus en plus existent de nos jours pour des compléments alimentaires dans tout un tas de domaines. Les gens peuvent faire des essais et ils se soignent eux-mêmes, et ni vous ni moi n'en entendrons parler. Bon. Mais ce que je suppose ceux qui suivent vos vidéos ou vos podcasts plutôt cherchent, c'est des solutions pour des problèmes de sommeil complexes. Eh bien, ces problèmes sont multifactoriels. Je peux vous le dire, ils sont multifactoriels.
Complètement.
Et donc, c'est ça le côté holistique. On regarde les différents facteurs et ne pas crier victoire trop vite quand on en a un qui est identifié, on se dit Eureka, et puis bon, ça va un peu mieux, puis finalement, on est déçu parce que la personne recommence à avoir des problèmes de sommeil, et donc ça veut dire qu'on n'a pas fait le tour des causes.
Oui, complètement. Et puis en plus, on peut passer à côté de choses très importantes et très intéressantes, puisque parfois on vient, par exemple, apporter, comme vous disiez, de la mélatonine, on vient apporter quelque chose d'autre. Mais comme c'est pas suffisant, la personne va laisser de côté cette béquille-là ou cette aide-là, ou alors cette technique-là, je pense pas à la sophrologie ou autre. Mais comme les outils ne sont pas utilisés en synergie les uns avec les autres, mais plutôt les uns après les autres, la personne a l'impression que rien ne lui convient et finalement elle désespère.
Elle a peut-être tenté tout ce qui lui convenait, mais pas en même temps.
Exactement, tout à fait.
C'est ça que j'appelle multifactoriel.
Complètement.
Quand c'est multifactoriel, si on s'occupe d'un facteur à la fois, on n'est pas dans la solution de problème multifactoriel. Et il y a ça aussi avec les diètes, si vous voulez. Hein. Des gens qui ont un système digestif absolument infâme, et je viens encore d'avoir une nouvelle patiente juste avant de commencer ceci, vraiment 2 minutes, fini 2 minutes avant que nous commencions notre discussion. Les gens essayent sans gluten, bon, ça va pas beaucoup mieux. Et puis alors ils essayent sans lactose, bon, ça va pas beaucoup mieux non plus. Et puis ils diminuent les sucres, bon, ça marche pas. S'ils avaient peut-être fait les trois en même temps, ils auraient peut-être eu une solution, comprenez. Alors, bon, la limite de ça, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un qui a une expertise spécifique pour vous guider, c'est quand même décourageant. On ne peut pas non plus arrêter de manger tout ce qui pourrait poser problème, parce qu'alors, ce n'est pas tenable. Et puis, finalement, on ne sait pas ce qui a marché, ce qui n'a pas vraiment aidé. À un moment donné, bon, voilà, il faut de l'expertise, il faut un peu de budget, il faut un peu investir. Et il faut explorer les différentes pistes. Alors, moi, vous aurez remarqué que j'ai une approche très biologique, hein, ce qui n'est qu'une partie de ce que vous faites, mais je pense une partie importante, parce que les aspects biologiques, les dérèglements biologiques peuvent contribuer à de nombreux facteurs qui expliquent l'insomnie. Mais évidemment, ça ne se limite pas à ça. Donc, vous faites ce que je fais, plus d'autres choses. Et donc, c'est intéressant, même pour mes patients qui sont pas nécessairement totalement satisfaits de ce que je leur propose. Et alors, vous avez mentionné la sophrologie, la psychologie, et vous avez un tas de cordes, de cordes à votre arc.
Et justement, je vous propose qu'on puisse en parler un petit peu là, de biologie, et que vous puissiez nous éclairer sur ce que vous faites lorsque vous avez, par exemple, une personne qui vient vous voir, ça fait 20 ans qu'elle traîne une insomnie derrière elle. Finalement, par quoi vous commencez? Qu'est-ce qui, au niveau biologique, va pouvoir ensuite attirer votre attention et puis donner des choses concrètes?
Très bien, ça c'est donc une question très pratique et je crois que c'est parfait pour enchaîner. Je vous ai mentionné un test qui est probablement le premier à faire, qui est qui est l'évaluation de la mélatonine. Soit je le fais, et c'est facile pour moi parce que je demande toujours à mes patients de faire une collecte des urines de 24 heures, ce qui est le support idéal pour doser les métabolites de la mélatonine qu'on appelle la 6-sulfatoxymélatonine, 6-SLMT. Tous les labos ne font pas, mais les labos de médecine fonctionnelle le font, le dose évidemment. Et alors, cette analyse urinaire peut être remplacée éventuellement, et ça a son intérêt aussi, par des tests salivaires qui apportent un plus, pas nécessairement indispensable, mais quand même intéressant, parce que les labos en général proposent des tests salivaires étagés à différentes heures de la fin de journée et de la nuit. Bon, alors, c'est ça que ça me gêne un peu, s'il faut se réveiller pour aller cracher un peu de salive dans un tube à essai. Mais on a une courbe de la mélatonine peut être faite au niveau salivaire, qui peut être obtenue par des prélèvements salivaires. Donc voilà, un reflet de la mélatonine.
Et donc en parallèle de ça, c'est nécessaire de faire la même chose, mais au niveau du cortisol, puisque je sais que ça se fait
alors,
pour le coup
oui,
en journée.
Parce que voilà, ça c'est une parfaite transition. Le cortisol devrait avoir idéalement la courbe exactement inverse de la mélatonine. Et alors, ce que je dis toujours à mes patients, et je suis certain que vous dites aussi, c'est que pour dormir, s'endormir en tout cas, dormir par la suite, parce que ce n'est pas tout s'endormir, il faut que la mélatonine décroche idéalement vers 9h du soir, 10h du soir, on voit la mélatonine qui commence à pointer le bout de son nez, qui la courbe grimpe, et au même moment, ça croise une courbe de cortisol qui est descendante. Et c'est les deux qui induisent le sommeil. Si le cortisol ne descend pas pendant que la mélatonine augmente, même si la mélatonine est présente, on peut avoir une difficulté d'endormissement, voire une insomnie. Donc, effectivement, c'est bien de doser le cortisol. Bon, alors, je ne le fais pas nécessairement. Ça peut étonner. Moi, ce que je fais systématiquement, chez ces patients insomniaques, mais chez tous mes patients, parce que c'est trop important, c'est un dosage des marqueurs de la fonction surrénalienne, puisque le cortisol est l'hormone de stress produite par les glandes surrénales. Et donc, il me faut, moi, des patients qui ont une bonne fonction surrénalienne. Je me souffle un peu, parce qu'on dirait cette côte, table, conviendrait bien autour de France, moins à moi. Et alors, j'ai ma maison juste derrière.
D'accord, on fait le tour. On fait le tour du quartier. Enfin, le tour du champ, plutôt.
Je m'éloigne pas trop parce que je veux rester sous le signal puissant du village et j'ai peur que si je vais là, en bas dans les bois, là, on va perdre du signal. Donc, moi, ce que je fais, c'est de toute façon évaluer la fonction surrénalienne. Dites-vous bien que si la fonction surrénalienne est insuffisante, c'est très fréquent, il y a quelque chose qui se passe qu'on peut deviner sans nécessairement l'objectiver avec les dosages étagés à des heures bien définies de la cortisol salivaire, c'est que si les surrénales sont très basses, figurez-vous, c'est logique, mais peu de gens y pensent. Le cortisol ne sait pas descendre s'il est déjà bas. Et si le cortisol l'après-midi est à zéro, comment est-ce qu'il va descendre pour favoriser le sommeil? Et c'est ça le problème. Je cache un peu parce qu'il y a du vent. Et donc, voilà, il faut une bonne fonction surrénalienne. Et alors, quand elle est en panne, ce qui se passe typiquement, c'est que il y a un effet paradoxal, un rebond paradoxal, et on voit le cortisol, quand on fait ces dosages salivaires, on voit le cortisol qui grimpe, soit en fin de soirée, soit même pendant la nuit. Bon, là, c'est insomnie garantie, puisque on est en train de stresser, de faire les hormones de stress au milieu de la nuit, insomnie. Vous voyez, donc,
c'est assez contre-intuitif finalement, puisqu'on se dit si les surrénales sont à plat, il ne devrait pas y avoir trop de production de cortisol, et en fin de compte, si.
Il n'y en a pas trop, c'est le rénal qui est.
Le timing, c'est ça que vous avez dit ?
Souvent, le réglage horaire, il y a souvent un pic matinal au réveil, ou à l'heure, ou en tout cas où on sort du lit. Hein. Et puis, ça s'effondre. On a particulièrement des problèmes en après-midi, où les gens sont épuisés. Et puis, il peut y avoir un effet rebond le soir. Les anglo-saxons appellent ça « second wind ». Et ça peut s'objectiver sur les dosages salivaires avec une production de cortisol après 9 heures du soir et même 11 heures du soir. Alors, bon, je ne sais pas si ça va vous intéresser. Moi, je trouve que c'est interpellant. Je ne pratique pas la médecine ayurvédique du tout. Hein. J'ai une vague connaissance généraliste, mais je ne vais pas me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais ils ont... des cycles, hein, ils croient en des cycles, ils disent qu'il y a un cycle d'activité qui démarre à 11h du soir, à 23h. Ben, ça, j'ai pu vérifier, que ce soit sur moi ou sur pas mal de patients, quand on a le coup de pompe à 10h30, il faut vraiment aller dormir, et on dort, eh bien, et si on laisse passer ça, parce qu'on veut terminer quelque chose, ou on est devant un écran, ou on est en train de traîner, etc. Eh ben, 23 heures, hop, on se réveille. On est de nouveau bien éveillé. Alors là, vous avez loupé le coche, et ce réveil de fin de soirée, de début de nuit, c'est très, très surrénalien. Donc ça épuise les surrénales. Donc il faut éviter ça, parce qu'on aggrave le problème. Et vous voyez, c'est de l'Ayurveda. Bon, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est capable. Goliath, tu sais quoi, on ne va pas aller là parce qu'il va y avoir trop de vent. Ça va faire du bruit. Allez, viens. On va aller retrouver Oxo là en bas. Il faut respecter quand même le principe de l'interview tout en promenant, mais c'est d'abord l'interview et pas la promenade. Viens, viens, viens. Ouf, ça ne lui va pas. Hein. Ouf, demi-tour. Ah oui. Ah non. Il freine.
Ah oui, non, effectivement, là, il est pas content du tout.
Regardez ça. Allez, viens, viens, parce que là, il y a trop de vent. Tu vas voir, ça va pas donner. Puis je vois Oxo là en bas. Alors, tout en bas, mais vous le verrez pas. Hein, tout en bas, il y a une petite tache blanc et noire. C'est Oxo qui se dit, ils vont peut-être revenir. Je les attends, parce que ça, c'est la limite de son territoire. Vous voyez, il ne va pas au-delà, parce que son territoire s'arrête là.
C'est déjà pas mal par rapport à la maison.
Les chats sont des animaux territoriaux. Oui, il a un bon territoire, surtout les bois qu'il y a là en face. Vous voyez, les bois qui sont là en dessous, ça, ce sont ces bois. Oui, voilà. Là, c'est les bois Oxo, ça. Il connaît chaque trou de souris. S'il reste des souris, parce qu'à mon avis, il ne doit plus en rester beaucoup. Bon, donc, ce savoir ayurvédique qui date de millénaires, est interpellant, et ça, c'est exactement, je crois, le reflet de ce que je vous explique avec ce phénomène du rebond du cortisol en soirée. Mais, in fine, ce qu'il faut quand même viser, et moi, je fais des traitements de soutien surrénalien largement assez systématiquement, non, mais très fréquemment basée sur le remplissage des prohormones surrénaliennes, nommément la prégnénolone et la DHEA, déhydroépiandrostérone, mais on a tendance à dire DHEA parce que c'est quand même un peu long. Prégnénolone, bon là, on peut dire PGNL, mais bon, les gens disent prégnénolone, c'est un peu plus facile. Ce sont des choses que je dose dans le sang, hein, le matin à jeun. Et en plus, j'ai pour habitude de surveiller ça aussi dans les urines de 24 heures, qui pour les glandes surrénales ont un grand intérêt, c'est qu'il n'y a pas ces fluctuations très fortes. Hein. En fait, quand vous avez un dosage sur urine de 24 heures, on peut dire que ça reflète l'intégrale de la courbe circadienne avec le pic matinal et puis la décroissance, voire éventuellement un petit rebond nocturne. Mais soyons clairs, ce rebond nocturne, il est relatif. Ça reste des doses faibles de cortisol, mais c'est la tendance qui est mauvaise. Le fait que le cortisol remonte en deuxième partie de soirée, ça, c'est très dommageable. D'abord, c'est pas là qu'il faudrait mettre notre cortisol, hein. On le gaspille alors qu'on n'en a pas eu pendant l'entièreté de sa journée. On a traîné son spleen et son épuisement tout l'après-midi. C'est pas pour avoir un pic de forme à 9 heures du soir quand on doit commencer à envisager de se préparer pour le dodo. Vous voyez, enfin, quand on n'a pas des professions, évidemment, qui imposent des horaires particuliers, mais en général. Et donc, ça, c'est très dommageable, mais toute cette approche de l'étude des surrénales, donc y compris ces dosages sur urine de 24 heures qui représentent l'intégrale des productions hormonales surrénaliennes, y compris évidemment le cortisol, hein, parce que quand vous dosez les métabolites urinaires du cortisol, voilà, vous avez cette intégrale. Eh bien, et qu'on s'aperçoit que les surrénales sont faibles, voire vraiment insuffisantes, c'est ça qu'il faut corriger. Parce que si ça est très bas, vous aurez nécessairement des problèmes de sommeil, nécessairement peut-être pas, mais vous aurez typiquement un facteur très gênant pour aider les gens à dormir. Et c'est connu parce que ce que les gens savent bien, c'est que le stress nuit au bon sommeil. Bon, voilà, quelque part, on retombe sur ses pas. Donc, chez ces patients chez qui on restaure progressivement la fonction surrénalienne, et ça demande du temps, puis il y a tout un tas de choses à faire, il y a un tas de trucs que vous conseillez qui vont dans ce sens-là. Je suis certain que parfois vous recommandez des choses pour que les gens dorment mieux, mais en réalité, ça bénéficie à leur fonction surrénalienne.
C'est ça, voyez, exactement, comme, oui, tout à fait.
Hein, c'est comme celui qui faisait de la prose sans le savoir, parce qu'il écrivait son journal quotidien. C'est qui encore qui disait ça? Je ne sais plus maintenant. C'est connu pour ça. Bon, peu importe. Voilà, vous faites du soutien surrénalien par toutes ces mesures d'accompagnement. Donc, c'est vraiment fondamental. Hein. Et donc, on a parlé de la mélatonine, on a parlé des surrénales, pas que le cortisol, parce qu'il y a tout le cortisol est quand même le dérivé de la prégnénolone. La prégnénolone dont je vous parlais, qui pour moi est essentielle dans tout ça, c'est le précurseur du cortisol. Vous n'avez pas fabriqué du cortisol sans prégnénolone. La prégnénolone, c'est un cholestérol sophistiqué.
C'est ce que j'ai découvert justement à travers vos vidéos. J'avais pas connaissance de ça. C'est intéressant de repartir à chaque fois à la base et oui. Puis d'avoir cette explication complexe. Et une question que je me pose là en vous écoutant, c'est que si on travaille sur la prégnénolone et sur la DHEA, là, ça suffit pour ensuite que les glandes surrénales puissent repartir.
C'est puissant, mais dire que ça suffit, bon, il faut faire aussi tout ce qui est intuitivement permet d'épargner ces fonctions surrénaliennes, ou alors on va devoir les soutenir perpétuellement, ce qui parfois est nécessaire. Alors regardez, hein, voilà, donc le cortisol est certainement très, 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 très stable et lumineux. Hein. Il nous attendait, vous voyez, Voilà, là, c'est la limite. Et alors, juste derrière lui, il y a ma maison, là, dans les deux tons de rose. Et donc, voilà, c'est à la tracée au cordeau. Hein.
Oxo, bon, je confirme pour ceux qui nous écoutent que la vue est top. J'aimerais bien être en balade là aussi dans les champs. C'est super agréable. Et du coup, le fait de prendre la lumière extérieure et le fait d'être en balade, c'est aussi très bon pour le sommeil.
Ah oui, oui,
ben trois jours de pluie, ça c'est pour le sommeil, c'est pas top.
Oui, les grands classiques de la mélatonine, évidemment, c'est que pas de lumière bleue le soir. Hein, la lumière rouge accompagne le lever du soleil, le coucher du soleil, donc c'est la bienfaitrice du sommeil. Et la lumière bleue qui est encore pour le moment à son zénith ici en milieu d'après-midi par ce beau temps exceptionnel, à vrai dire, est tout à fait néfaste. Et donc les écrans, moi, tous mes patients, j'insiste toujours, il faut mettre des filtres rouges sur les écrans et tous les ordinateurs maintenant, voilà, ce téléphone que j'utilise aujourd'hui est équipé d'un filtre rouge. Et donc en soirée, progressivement, il y a une tonalité rougeâtre qui s'installe et qui contrebalance les couleurs bleues.
Et vous pensez que ça suffit? J'étais plutôt mitigée jusqu'à maintenant par rapport vraiment à l'efficacité de ces filtres-là, ouais, même par rapport aux lunettes, pardon.
Non, écoutez, dire aux gens, vous ne pouvez plus travailler sur un écran après 9h du soir, c'est bien beau, mais moi, par exemple, ça ne tient pas la route parce que je suis mes courriels quasiment en temps réel. Puis alors, il y en a qui n'ont pas été répondus, qu'il faut finaliser le soir, etc. Je veux dire que je ne peux pas aller sur un écran le soir, c'est incompatible avec mon activité professionnelle, voire parfois de loisirs, mais surtout professionnelle. Donc ben là, il faut mettre des écrans rouges. Bon, maintenant, il est un fait que la préparation au sommeil, c'est pas de passer sa soirée sur des écrans, c'est plutôt de lire un bouquin, de discuter, mais pas de Covid ni des élections, mais de discuter de choses, apaisantes ou positives. Ce que j'ai cité avant n'étant pas spécialement positif, si on peut être positif au Covid, ça c'est un fait. Mais donc voilà, c'est traditionnel. Au coin du feu ou devant une tisane, vous voyez, bon, c'est mieux, mais la vie moderne est ce qu'elle est, donc il y a des écrans, mais si écran il y a, il faut au moins qu'il soit filtré. Bon, voilà ce que je dis, moi. Mais c'est un fait que, dans mon cas précis, si je vois un film qui peut être même passionnant, mais qui est peut-être très interpellant, violent, émouvant, en soirée, ouais. C'est quand même un dommage au niveau de ma nuit, hein, ça.
Je m'apprêtais à vous poser une question au niveau de la thyroïde, le lien entre thyroïde et sommeil. J'aimerais beaucoup que vous nous en parliez, mais avant cela, pour rester 2 secondes sur la mélatonine, je voulais profiter là de notre échange pour vous poser une question. La mélatonine, du coup, par rapport au dosage que vous faites faire et aux résultats que vous avez, on en produit toute la nuit ou on en produit qu'en début de nuit? Et c'est la raison qui expliquerait que lorsqu'on est réveillé à 4h du matin, c'est d'autant plus difficile de se rendormir et que souvent, les gens, ils restent à 4h30 du matin réveillés et c'est compliqué pour finir la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pu constater?
Oui, c'est quand même la règle. Maintenant, il y a des variations interindividuelles énormes, mais la règle, c'est effectivement que cette sécrétion de mélatonine s'étiole en deuxième moitié de nuit. Et quand on a un réveil précoce, on n'est plus aidé par la mélatonine. Alors, est-ce que prendre un peu de mélatonine à cette heure-là est une idée géniale? Pas tellement, parce que la physiologie a intérêt à être respectée. Ce que moi, je fais personnellement, ça marche très, très bien chez moi, que je conseille à beaucoup de patients qui s'en trouvent souvent satisfaits, c'est de prendre, lors de ces réveils précoces intempestifs, c'est de prendre de la théanine. L-théanine, qui est un acide aminé qu'on trouve dans le thé vert et pas dans le thé noir. C'est pour ça que le thé vert est beaucoup moins excitant que le thé noir, parce qu'il a l'effet, bon, il y a peut-être moins de caféine, mais il a aussi surtout l'effet calmant de la théanine. La théanine est une molécule très, très sûre qu'on obtient sans ordonnance. Je conseille jusqu'à 600 mg, donc 3 gélules de 200 mg à ce moment du réveil nocturne tardif. Hein. Attention, ça peut aussi aider à l'endormissement. Hein. La théanine, c'est quand on veut. Alors, la théanine, c'est une molécule extraordinairement sûre. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ça m'arrive très souvent de la prendre à mon éveil, parfois occasionné par mes chats ou parfois simplement parce que je vais à la toilette à 5 heures du matin. Bon, c'est trop tôt pour me lever. Je me dis, oula, bon, je vais commencer à réfléchir à 36 trucs que je dois faire aujourd'hui. Je prends ma théanine qui est dans ma table de nuit, un petit coup d'eau. Et même si je pense à des choses, à un moment donné, je me rends compte, après quelques minutes, que je ne sais plus me fixer sur ce à quoi je pense. Ça, c'est génial.
C'est aussi rapide que ça, d'accord.
Ben, ça peut mettre 10 minutes. Hein, ça peut mettre 10 minutes. Bon, je crois que le fait que quand on a confiance dans la molécule parce qu'on a eu de bonnes expériences, ça aide. Mais je vois vraiment ce genre d'effet. Si vous voulez, en anglais, pour ces ruminations nocturnes, je trouve que le terme anglais est bien choisi, c'est des « running thoughts ». Vous voyez, c'est des pensées qui courent. Mmh. Eh bien, la théanine les empêche de courir, et à un moment donné, ça c'est du vécu, hein, je m'en souviens très bien, parce qu'on est toujours éveillé quand même à ce moment-là, à un moment donné, je me dis, oh, oui, c'est vraiment, comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer, trouver tel patient ou tel problème logistique qu'on peut avoir, et puis alors, je me suis dit, mais minute, c'est quoi que j'essaye de résoudre là Et puis, je ne sais plus ce que je dois résoudre.
Eh enfin, bien, c'est, là, c'est pas gagné pour votre problème, mais c'est gagné pour la nuit.
Oui, voilà. 2 minutes après, je dors. Ça, c'est à tous les coups. Vous voyez, une fois que vous échappez à ces ruminations. Donc, je trouve ça très, très bien. Ça n'a aucune toxicité, aucun effet secondaire. Voilà, il faut juste se l'acheter, quoi. Bon, ça vaut la peine. Le sommeil, c'est quand même très précieux. Très important. Moi, l'impact d'un bon sommeil sur mon efficacité pendant la journée, c'est majeur. Oui. Et je voudrais vous dire quelque chose à ce sujet-là, mais je vais d'abord finir la pensée ici. C'est-à-dire que cette théanine que je prends à 5 heures, quand je me réveille vers 6h30, 7h, je n'ai absolument pas de confusion. Vous voyez, on n'est pas du tout gros. La preuve, c'est que la théanine est utilisée médicalement par des pédiatres ou des pédopsychiatre, hein, pour des enfants qui souffrent du syndrome d'hyperactivité et de déficit d'attention. Et donc, c'est utilisé pour les aider à avoir une meilleure concentration. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous rend groggy. C'est quelque chose qui vous stabilise, c'est quelque chose qui vous met d'équerre, si je peux dire. Oui, c'est assez exceptionnel. Bon, moi, je crois que c'est probablement un équivalent ou allez savoir, peut-être cette molécule-là, que les Indiens natifs d'Amérique du Nord fumaient dans ce qu'on a appelé le calumet de la paix, plutôt que de se taper dessus. Vous voyez, s'ils se bourraient de théanine fumable, je ne sais pas. Bon, voilà, ça calmait les tensions et ça aidait à résoudre les problèmes. Donc ça, c'est vraiment une molécule très intéressant. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a toute une panoplie de choses relativement sûres ou très sûres, comme la théanine, qui peuvent être utilisées. Et vous voyez, il ne faut pas avoir nécessairement peur de se réveiller groggy. Par contre, si vous prenez de la mélatonine à 5 heures du matin, bon là, d'abord, vous avez peut-être déréglé le mécanisme. Hein, la mélatonine, c'est une hormone, donc ce n'est pas tout à fait aussi anodin. Alors oui, je voulais vous dire pour ma nuit. Hein, alors chez moi, j'étais content. Ma dernière nuit ici, était bonne à très bonne, ce qui influence sur ma capacité de me concentrer avec vous maintenant. Hein. Donc, j'espère que je donne satisfaction, mais si j'avais passé une mauvaise nuit, je suis plus confus, j'ai du mal à suivre mes idées, à faire deux choses en même temps, etc. Ben, dont il paraît que les hommes ne sont pas capables de faire, seules les femmes peuvent faire deux choses en même temps. Enfin bon, ça, je conteste.
C'est tout un débat. Mais,
alors, qu'est-ce que j'appelle une bonne nuit ? Eh bien, chez moi, bon, et je pense que j'ai quand même pas mal de patients qui ont cet avis-là, mais bon, on se connaît mieux soi-même que nuit après nuit, sur des années d'observation, qu'avec des patients qu'on rencontre au bout de quelques mois, et avec qui on discute pendant une heure, deux fois une heure, mais c'est pas la même chose que sur soi-même. Sur moi, la durée du sommeil n'a absolument aucune importance. Seul compte la durée du sommeil profond.
Intéressant, d'accord.
Ah, mais non,
donc,
mais c'est
7 heures et 7 heures, c'est la même chose, c'est pas la même chose.
Ah non, mais pas du tout. C'est pire que ça. Parce que j'ai déjà eu des cas, parfois, on a des obligations, des trucs qui chamboulent vos horaires, etc. J'ai des exemples, parce que j'enregistre mes nuits avec un système Withings. J'ai la montre ici au poignet. C'est français, en plus. Ça me fera plaisir, certainement. Je ne suis pas commissionné, hein. Malheureusement, parce que justement, je voulais acheter une nouvelle, mais c'est très bien, c'est pas cher, bon, c'est abordable pour le service que ça rend, c'est un très bon investissement d'avoir un biofeedback sur la qualité du sommeil, et ça corrobore en général mes sensations, mais pas toujours, vous voyez, c'est quand même un plus par rapport à ce qu'on peut supputer, vous voyez, il me semble que, mais c'est pas toujours juste. Bon, et donc la montre me dit si c'est sommeil superficiel ou sommeil profond. Et alors je vais vous donner deux exemples. Je peux faire une nuit de 8 heures où il y a maximum 3 heures de sommeil profond. Je suis crevé, je suis pas en forme. Je suis lourd, je suis lent, et j'ai le cerveau embrumé. Et puis je vais faire une nuit de 6 heures où j'ai 4h30 de sommeil profond, je suis en pleine forme. Donc, vous voyez, 8 heures, on va se dire, eh, c'est mieux d'avoir dormi 8 heures. Que nenni. Non, pas du tout. Vous voyez.
Alors, qu'est-ce qui explique alors, du coup, selon vous, la différence au niveau du sommeil profond ?
La réparation.
Non, mais qu'on en ait plus ou qu'on en ait moins ?
Mais la réparation du cerveau se fait pendant le sommeil profond. Hein. Et il est acquis aussi que l'élimination des toxines, via ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, ce siècle, il y a une dizaine d'années, le système lymphatique, qui est le système lymphatique du cerveau, donc ce n'est pas moi qui prononce mal ou qui fait du belgicisme, c'est le système lymphatique avec un G, qui est le système lymphatique du cerveau, qui évacue les toxines, agit, entre en fonction pendant le sommeil profond.
Mais je voulais savoir qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on peut avoir 2 heures ou 4 heures de sommeil profond et qu'on n'a pas la même quantité de sommeil profond en fonction des nuits. Ça m'intéresse d'autant plus parce que même là, ce que vous me dites en termes de durée de sommeil profond, moi qui ai aussi pendant longtemps tracé mon sommeil, je crois que je n'ai jamais dépassé les 2 heures. J'étais même plutôt aux alentours d'une heure et quart, une heure et demie. Alors, je suis curieuse de savoir.
Pas beaucoup. Bon, ce qui a l'air d'être pas beaucoup. Maintenant, bon, là, un petit bémol quand même. Méfions-nous. Bon, il y a une technologie. Qu'est-ce que le système, le software, hein, le logiciel Withings interprète comme sommeil profond? Si vous utilisez un autre moyen de feedback pour évaluer la qualité de votre sommeil, ben, si ça se trouve, c'est pas le même algorithme et ce n'est pas les mêmes critères. Bon. Moi, c'est pour ça que je me tiens à ce truc Withings, parce que bon, j'ai beaucoup de patients qui font d'autres trucs et qui me disent, ah oui, mais c'est bien, vous devriez essayer, etc. Non, moi, je suis satisfait parce que je trouve que ça reflète bien ce que je pense avoir éprouvé comme sommeil profond ou pas. Bon. Alors, mais comprenez, peut-être que si vous passez d'un système à l'autre, d'ailleurs, bon, d'abord, il y a des systèmes. Alors, oui, il y a aussi le sommeil REM. Moi, je crois que chez WeThings, je n'ai jamais exploré parce que finalement, je crois que chez WeThings, le sommeil REM est intégré dans le sommeil profond, même si ça paraît un peu paradoxal, mais d'après mes constatations, oui, parce que quand je sais que j'ai rêvé avant un éveil, c'est enregistré comme sommeil profond. Donc, peut-être que le terme qui conviendrait mieux, c'est le sommeil récupérateur, qui est soit le sommeil profond, soit le sommeil REM. Parce que moi, je suis persuadé par mon expérience clinique et par mon expérience personnelle que le fait de rêver résout les conflits, les problèmes, apaise des tensions internes, etc. Et puis, peut-être vous apporte des solutions.
Je précise pour ceux qui nous écoutent que le sommeil REM, c'est le sommeil paradoxal, nous on l'appelle comme ça en France,
oui,
en tout cas.
Rêve,
c'est le sommeil du rêve, voilà, pour Rapid Eye Movement.
Oui. Et moi, je me trouve mieux après une nuit où j'ai bien rêvé. Donc, oui, c'est complexe. Et alors, est-ce qu'on peut comparer? Je crois que les comparaisons interpersonnelles sont assez nullissimes là-dedans, mais que par contre, vous utilisez un système qui vous paraît correct, que vous aimez bien, qui vous paraît refléter la réalité, et vous amenez des interventions diverses pour améliorer. Vous voyez, si vous passez d'une heure et demie à deux, d'une heure et demie à deux heures, je suis certain que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Comme moi qui passe de 3 à 4. Mais c'est incroyable. Hein. Si j'ai 3 heures et demie, ce n'est pas ça. Hein. Si j'ai 4 heures et demie, intellectuellement, c'est no limits. Hein.
Complètement. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas la valeur absolue finalement qui est la plus intéressante, mais c'est de voir l'évolution. Si on met en place une hygiène de sommeil et puis qu'on voit qu'il y a des choses qui évoluent, eh bien, c'est ça qui compte. Et effectivement, vous avez raison, on le sent en plus nous-mêmes. Donc, ça reflète ça.
L'intérêt d'un feedback reste majeur. D'abord parce que s'il y a déjà une grosse incertitude quant à notre évaluation de la qualité de la nuit, hein, qui est quand même soumise à beaucoup de facteurs. Hein. Quelque chose de très, très emballant à faire le soir, vous vous éveillez, vous êtes là, positif, si ça se trouve, vous allez vous dire, j'ai bien dormi. C'est peut-être pas aussi, aussi évident que ça. Donc, il faut quand même essayer d'éviter trop de biais et trop d'interprétations subjectives. Donc, le feedback est pour moi très utile, mais ça ne veut pas dire que nos sensations sont nulles, mais il y a le feedback en plus qui est objectif, qui n'est pas subjectif. Et ce qui est génial, évidemment, là-dedans, c'est que vous allez faire intervenir tous ces facteurs, donc ce truc multifactoriel qui est complexe. Et alors, vous allez jouer sur d'autres molécules dont on n'a pas encore parlé. On peut évoquer le GABA, hein, qui est ce neurotransmetteur calmant, très, très important, puisque tous les somnifères disponibles sur cette planète sont tous des activateurs GABA, d'un type ou de l'autre. Donc, il n'est pas question d'avoir un somnifère sans parler du GABA. Mais alors, ce que moi j'utilise, c'est le GABA, la molécule en tant que telle, qui va avoir d'excellents effets chez certaines personnes, vraiment superbes, parfois transitoires. Bon, c'est que c'est un facteur parmi d'autres, mais il faut y penser. Bon, je crois que le GABA est quand même une molécule très sûre. Au pire, ça n'agit pas. Bon. Certains disent que ça a du mal à franchir la barrière hématoencéphalique. Ouais. Comme les patients que je recrute sont en général des patients qui ont une barrière intestinale perméable, on considère qu'ils ont aussi leur barrière hématoencéphalique perméable. Donc, ça facilite des choses. Et puis, au pire, c'est décevant, on n'insiste pas, on n'a pas de risque. Et si on en prend trop ou trop longtemps alors qu'on n'en a plus besoin, alors on est un peu groggy le matin. Puis on se dit, tiens, j'ai peut-être trop de GABA là. On arrête le GABA et on est plus groggy le matin. Bon, voilà, c'est qu'on a, on a fait le tour du GABA, ou bien qu'on doit diminuer la dose. Hein, la dose peut être de 200 mg, 300 mg, 600 mg, semble être un maximum à prendre le soir au coucher. Mais je donne du GABA à des patients très nerveux, très agités pendant la journée. Donc, vous voyez que c'est pas… Et ils travaillent, ils font leur journée. Donc, c'est pas… C'est une belle molécule. Puis alors, évidemment, il y a le cannabidiol, hein, le CBD, qui est très tendance.
C'est très en vogue, effectivement, actuellement.
Alors, il faut en parler brièvement. Très grosse variation de l'effet d'une personne à l'autre à cause de ces récepteurs cannabinoïdes qui sont extraordinairement complexes et très différents d'une personne à l'autre. Donc, voilà. Il faut essais et erreurs. Et puis alors aussi une très grande variété de qualité, pas nécessairement parce qu'on a affaire à des escrocs, quoique il y en a, mais aussi parce que voilà, les plantes sont, vous voyez, sont variables. Sous cette histoire de cannabinoïdes, c'est extraordinairement complexe, mais aussi fascinant. Et je crois qu'il serait quand même ridicule chez un gros insomniaque de ne pas au moins essayer cette piste-là. Et parfois, on est déçu, mais peut-être au début, en tout cas, pour couper le cercle vicieux, parce que l'insomniaque, il est aussi insomniaque parce que il se dit qu'il va mal dormir. Il n'y a rien de pire pour mal dormir que de se dire qu'on va mal dormir. Et donc, pour casser le cercle vicieux, il faut parfois donner des grosses doses de CBD. Il ne faut pas avoir peur de monter la dose jusque, je dirais, 60 mg. C'est une bonne dose pour des gros insomniaques. Tant qu'on n'a pas essayé ça, ben, on n'a pas essayé tout. Alors, que ce soit la théanine, le GABA et ses activateurs, dont le fameux taurate, la taurine, qui est activatrice du GABA. On peut prendre sous forme de taurate de magnésium. Voire maintenant, et je suis sur le point d'expérimenter ça, du taurinate de magnésium, qui est la taurine acétylée, qui aurait une meilleure pénétration à travers la barrière hématoencéphalique parce que l'acétylation apporte un caractère liposoluble. Et bon, on sait que les barrières, c'est liposoluble. Hein. Il y a une membrane là, des membranes cellulaires, c'est lipidique. Les composés hydrosolubles ont du mal à traverser. Il faut du liposoluble. Tous les médicaments qui ont des cibles dans les cellules, à l'intérieur des cellules du corps humain, sont liposolubles. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une action prolongée, parce que le corps les garde pendant un certain nombre d'heures et la formulation de la molécule chimique tient compte de cette rémanence, hein, de la durée de vie du composé chimique. Et donc tout ça, c'est du monde liposoluble. Donc, que ce soit du taurate de magnésium ou du taurinate de magnésium, là, on agit aussi sur le récepteur GABA parce que le taurate, c'est un activateur faible, mais quand même significatif du récepteur GABA, sans être le neurotransmetteur en lui-même, mais il agit sur le récepteur. Et c'est quelque chose qui marche très, très bien chez un certain nombre de personnes. Moi, j'ai des patients qui me disent « Ah, mais avec votre taurate de magnésium, au coucher, moi, je dors comme un bébé. »
Donc ça, oh, avec, oui, le GABA ou tout seul?
Oh, tout seul, hein. D'ailleurs, ça aurait du sens, d'essayer d'abord du taurate de magnésium. Et si c'est insuffisant, de penser au GABA, parce que si le taurate de magnésium suffit, vous savez, moi, je préfère laisser les neurotransmetteurs tranquilles. Et plutôt travailler avec… Regarde, viens par ici, parce que là, il va y avoir du bruit. Bien. Laisser les… Non, il ne veut pas non plus. Hein. Ouf, non. Il faut faire la totale. Bon, bah, écoutez, tant pis. Le chien, c'est le chien qui dirige. Moi, je n'ai strictement rien à dire dans cette histoire. Et donc, oui, taurate avant GABA. Oui, donc, vous avez une liste, taurate, taurinate éventuellement, à vérifier. GABA, CBD… Théanine, mélatonine, agir sur les surrénales, Et puis alors la thyroïde. Il faut qu'on parle de la thyroïde.
Effectivement, je voulais vous demander si c'était indispensable, si ça faisait partie de vos indispensables de venir voir ce qui se passait au niveau de la thyroïde à chaque fois qu'il y avait un problème de sommeil.
Pas nécessairement indispensable, mais donc c'est bien parce que je n'avais pas pensé à la question sous cette forme-là. Vu que bon moi, vous savez, si vous venez avec des problèmes tous azimuts, j'ai quand même rarement des gens qui viennent juste pour l'insomnie, bien que ça puisse se trouver. Ben alors ces insomnies particulièrement rebelles, ben alors je mets quand même en marche tout un outil diagnostique biologique. Donc, chez moi, en général, je vais toujours avoir quand même un contrôle thyroïdien, peu ou prou. Mais si vous me dites que c'est indispensable, non, pas nécessairement, mais primo, si vous avez d'autres signes d'appel, une fonction thyroïdienne affaiblie, bon, il y en a une liste, il y en a une tonne, constipation, dépression, fatigue matinale, l'impression de ne pas avoir un sommeil reposant, tiens, ça va vous parler, ça. Perte de cheveux, ongles cassants, peau sèche. Enfin bon, écoutez, il y a 100 symptômes, tous azimuts. Donc s'il y a déjà ça, bon, ben, en avant, il faut s'y intéresser parce que c'est probablement un facteur, un de ces facteurs dans l'aspect multifactoriel. Secundo, il faut bien se rendre compte que trop de thyroïde ou trop peu de thyroïde, les deux cas de figure vont donner une mauvaise qualité du sommeil. Et ça, c'est délicat. Et alors, beaucoup de gens restent sur l'idée que c'est trop de thyroïde qui pose problème parce que les hyperthyroïdiens sont insomniaques et très insomniaques quand c'est sévère. Oui, ça, on est bien d'accord avec ça. Voilà le bruit que vous avez annoncé. Voilà. Voilà, on shoot dans la nature, on est soumis aux aléas. Et donc, trop de thyroïde, oui, ça c'est évident. Alors, trop de thyroïde, c'est quoi? C'est des gens qui souffrent d'hyperthyroïdie, qui peut être virale, qui peut être post-vaccinale. J'ai eu quelques cas intéressants à mentionner, peut-être, comme ça en passant, qui est souvent auto-immun. Et voir peut-être des nodules thyroïdiens sécréteurs qu'on appelle des nodules chauds. J'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus qui apporte plus de détails. Bon, ne nous perdons pas trop là-dedans. Une cause fréquente de trop de thyroïdes, ce sont des traitements thyroïdiens surdosés. Et parmi les patients qui ont vu des médecins fonctionnels, des endocrinologues, etc., ça, c'est pas rare d'avoir un traitement thyroïdien qui peut-être a été adéquat à un moment donné, qui a fait du bien, et puis qui passe dans le surdosage. Il faut adapter, il faut affiner. Et alors, c'est le moment de parler ici des deux hormones thyroïdiennes, qui en fait ne sont pas deux hormones, c'est une pro-hormone, qui est la thyroxine, qui est connue, qu'on appelle aussi la T4, parce qu'elle a 4 atomes d'iode, et une hormone active, la T3, qui a perdu un atome d'iode, donc c'est pour ça qu'on passe de T4 à T3, et qui se fixe sur les récepteurs, et qui est donc la seule hormone qui vaille. Il n'y a pas d'activité thyroïdienne sans T3. Bon, alors, les gens sont un peu perplexes quand on leur dit ça, parce que en général, ils reçoivent de la thyroxine de leur médecin. Il dit, ça y est, sinon la thyroxine, c'est une prohormone, elle n'a aucune activité hormonale, elle ne s'est pas fixée sur un récepteur. Mais elle se transforme en T3, plus ou moins bien, c'est là le problème. C'est cette conversion de la prohormone T4 en hormone active T3 qui peut poser d'énormes problèmes. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais concentrons-nous sur la T3, qui est l'hormone active. Eh bien, c'est ça qui est dramatiquement important pour vos insomniaques. Trop peu de T3, et par exemple le stress peut provoquer aussi ça, puisque le stress bloque la conversion. Allez, bon, c'est la grande route qui traverse le village, alors les trafics, c'est pour ça que je ne voulais pas y aller, mais bon, c'est Goliath le chef. Et donc la conversion de T4 en T3 est bloquée par le stress. Et donc les stressés vont avoir une tendance à présenter un manque de T3, bam, insomnie. Donc, on a parlé du cortisol et des stressés, on est bien d'accord. eh bien, vous allez corriger les surrénales, vous dire, c'est quand même pas génial. Hein. Ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de T3? Alors que la tendance systématique chez mes collègues, c'est de se dire, oh, insomnie, trop de T3. Eh bien, moi, je leur réponds, insomnie, trop peu de T3. Aussi, trop de T3, je suis d'accord avec eux, mais aussi trop peu. Alors, ce qui est fascinant, je vous aurais montré si on était devant mon ordinateur, j'aurais peut-être fait des gros plans. Enfin, de toute façon, sur un podcast, ça n'y change rien. Mais ce qui est fascinant chez moi, qui prend un petit traitement thyroïdien qui n'est pas très lourd, mais enfin, qui est indispensable, sans quoi je suis, comme je disais, encore dans un email ce matin, à l'état larvaire, ce qui n'est pas l'idéal pour faire de la médecine fonctionnelle. Les larves font peu de médecine fonctionnelle en général.
Pareil.
Ce qu'on entend dire, oui. Eh bien, je suis méga dépendant du réglage fin de mes taux de T3. Je prends très peu de T3. J'en prends pour le moment en hiver 7 microgrammes par jour, ce qui n'est quand même vraiment pas grand-chose, vu que les comprimés disponibles en France, ça s'appelle le Sinomel, c'est la T3 classique. Là. La molécule s'appelle liothyronine. Hein, le nom médical, c'est la liothyronine, mais bon, c'est plus facile de dire T3. Le comprimé de Sinomel en France, c'est 25 microgrammes. Bon, il est sécable, donc effectivement, c'est comme si je prenais un quart de Sinomel, mais je le fractionne en trois fois, parce que la T3 a une durée d'action courte, donc chez moi, c'est beaucoup mieux de répartir. Donc, je prends deux bons microgrammes, 2,25 en fait, trois fois par jour, parfois deux fois. Hein. Et puis, alors en été, ben, ça diminue. Souvent, je prends qu'une fois. J'adapte. Mais je suis très dépendant à cette adaptation. Si j'en prends trop, je suis un peu tendu et certainement un peu facilement agressif, donc franchement, c'est pas le but, et puis je me sens pas bien, je me sens un peu énervé. Mais si j'en prends trop peu, je peux vous dire que mon sommeil profond dont on parlait tout à l'heure est massacré, il s'effondre, je passe de 4 heures à 2 heures hein, si j'ai trop peu de T3. La nuit suivante, j'en prends un peu plus, pas beaucoup plus, un peu plus, et preuve à l'appui, parce que mon feedback, mon feedback de sommeil me dit, et alors j'ai un tableau Excel où je mets la quantité de T3 que j'ai prise en regard de ma courbe, de mes statistiques de sommeil, c'est hallucinant. Et par contre, évidemment, l'inverse est vrai aussi, si je commence à prendre un peu trop ou que j'en prends trois et puis que finalement j'aurais plutôt besoin de deux, vient une nuit où je ne dors pas bien non plus, mon sommeil profond est aussi en chute libre, et c'est parce que j'ai pris trop. Et alors la nuit suivante, je prends moins et je retombe sur mes pattes d'un sommeil profond très long. Donc c'est très 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 sensible, et le médecin ne peut pas aider à ce niveau-là, c'est le patient qui, avec son feedback, évidemment sous l'éclairage du médecin qui donne un cadre à tout ça, qui peut faire des petites fluctuations, parce que voilà, si j'ai fait une grosse promenade avec Goliath, ou s'il fait très froid, eh bien, il me faut plus de T3. Si je suis très relax, je passe un super week-end, il fait beau, etc., bah, il me faut moins de T3. Donc, le médecin n'a rien à voir dans tout ça. Il faut comprendre un peu comment tout ça marche, sentir, ressentir, s'écouter, adapter un peu, et chez moi, ça, l'impact de ça sur mon sommeil est gigantesque. C'est pour ça que j'ai dédié une vidéo spéciale à la relation T3-insomnie, et je pense que vous avez vu cette vidéo, et où je donne un peu plus d'explications, parce que ça, c'est vraiment le sujet de la vidéo, qui fait quand même 28 minutes, où je parle de ça peut-être un peu plus en détail, quoi qu'ici, je viens de vous résumer quand même pas mal le problème. Vous voyez, donc, vous qui me parliez de votre sommeil profond court, est-ce qu'on a exploré cette piste-là? Je ne crois pas.
Oui, vous avez complètement raison, effectivement. Il y a encore plein de choses à explorer pour moi.
Avant que je n'oublie cette histoire de T3, on a dit que le stress bloquait la conversion de T4 en T3. Il y a aussi un génotype qui est le génotype.
Justement, c'était une question que je voulais vous poser parce que ça fait partie des choses que j'aimerais bien explorer aussi à titre personnel pour ensuite pouvoir en parler plus facilement. Et bien évidemment que je voulais vous poser cette question puisqu'en plus, c'est avec vous que j'ai appris l'existence de la génomique.
Ah, très bien. Vous m'envoyez très, très, très fier, très satisfait d'entendre ça parce que c'est important, la génomique. C'est pas la révolution, mais pour la personnalisation des conseils, c'est important. Et le meilleur exemple, c'est cette conversion de T4 en T3 qui dépend d'un enzyme. Hein, on connaît bien l'enzyme, c'est la déiodinase. Tenez-vous bien, déiodinase qui enlève un atome d'iode, qui convertit donc T4, 4 atomes d'iode, en T3, 3 atomes d'iode. Voilà, c'est pas sorcier. Eh bien, la déiodinase, bon, il y en a trois différentes. Ça se complique un peu. On parle ici de la déiodinase 2. Donc, l'acronyme du gène, c'est DIO2. Eh bien, ce gène DIO2 a des génotypes. Donc, il y a trois génotypes. Il y a le génotype favorable, où tout se passe de manière optimale. Il y a le génotype dit hétérozygote, où il y a une copie du gène venant d'un des parents qui est quand même un peu faiblard, mais c'est mon cas d'ailleurs. Bon, ça a une conséquence, mais c'est pas majeur. Mais alors, et bon, allez savoir si c'est pas votre cas, vous comprenez. Si on n'a jamais regardé, c'est peut-être un élément à prendre en compte. Il y a le génotype des iodeux homozygote variant, donc qui n'est pas favorable, qui est quand même assez courant, c'est pas rare, et où les deux copies sont faibles. Et donc, vous êtes mal équipé pour convertir T4 en T3. Et donc, ce sont des gens chez qui il faut peut-être, en tout cas s'ils sont en plus stressés, soutenir la T3 d'une manière légère, mais soutenir quand même. Et on sait qu'un changement léger de T3 peut avoir un impact énorme. Alors, il y a les cofacteurs aussi de la conversion T4 en T3, hein, ce fameux enzyme déiodinase. Deux, il contient du sélénium. Donc, si vous êtes déficitaire en sélénium, et je vois des tonnes de déficits en sélénium, vous savez, s'il n'y a pas de sélénium, vous n'allez pas faire un enzyme qui contient du sélénium si vous n'avez pas le sélénium. Hein. L'enzyme, il n'est pas là. Il a beau être efficace ou moyennement efficace ou même pas efficace, si en plus, il n'y a pas de sélénium, il n'y a pas l'enzyme. Et puis alors, le zinc est un sélénium très important et le zinc va toujours être déficitaire chez les stressés. Donc, ces stressés-là, écoutez, on peut vérifier le taux sanguin, c'est quand même toujours mieux. Et si on ne peut pas s'offrir ce luxe de faire des tests, prendre un peu de zinc, je suis très stressé, je ne vois pas que ce soit un gros problème. Et pareil pour le magnésium. Oui, on tourne en boucle. Hein, oui. Et donc, quand vous avez… C'est bien qu'on ait commencé par les surrénales, mais se dire, on va mettre les surrénales en ordre, vogue la galère, tout va aller pour le mieux, et négliger cette affaire thyroïdienne, vous allez louper pas mal de cas.
Là, au niveau de ce que vous évoquiez pour les différents gènes, c'est l'expression des gènes, ce sont les gènes en eux-mêmes. C'est, qu'est-ce que finalement, une personne qui nous écoute, avec quoi elle va voir son médecin en lui disant « moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe chez moi, est-ce que ça peut être expliqué comme ça ?» Quelle, finalement, analyse, examen elle doit faire?
Bon, dans la génétique, il faut bien faire la distinction entre les maladies génétiques, c'est une affaire très sérieuse qui est de l'apanage des généticiens, hein, dont les médecins généralistes comme moi ne devraient pas trop se mêler, si ce n'est pour soutenir le moral parfois des gens qui apprennent de mauvaises nouvelles et tout ça. Donc moi je fais pas ça, hein. C'est très complexe, bon, voilà, c'est un métier en soi, une spécialité. Par contre, la génomique n'intéresse pas du tout les généticiens qui trouvent ça fade, parce qu'ils s'occupent de choses peut-être plus graves aussi. Et donc les génotypes, les variations génomiques sont pas des maladies, ce sont des settings, ce sont des réglages. Vous pour ce gène des iodeux, vous n'êtes peut-être pas réglé comme moi. Hein. Mon réglage, il est intermédiaire. J'ai une bonne copie du gène et une mauvaise. Et donc, on est quand même bien conscient qu'on a deux parents, hein, et qu'on a un héritage génétique 50% de chaque côté. Et donc, vous avez dans le cas de figure trois possibilités. Vous avez deux bonnes copies venant des deux parents. Ça va optimiser. Vous avez éventuellement une bonne et une mauvaise, qui est mon cas. Je soupçonne que la mauvaise vient de ma mère, parce que je sens qu'il y a eu, il y a très longtemps, perdu ma mère il y a presque 50 ans. Et donc, à l'époque, je peux vous dire, on n'était pas là. Et donc, si vous voulez, c'est pas trop problématique, mais bon, ça joue quand même son petit rôle. Et puis alors, il y a le troisième cas de figure où vous avez deux mauvaises copies venant des deux parents. Et là, ça, franchement, ça joue, et je reconnais ça comme quelque chose qu'il faut souvent prendre en compte, pas nécessairement pour lancer des traitements hormonaux, mais pour au moins optimiser les cofacteurs dont on a parlé, sélénium, zinc, il y en a d'autres, on ne va pas entrer dans tout ça. Les cofacteurs thyroïdiens aussi, l'iode, hein, parce qu'on parle des atomes d'iode, il n'y a pas d'iode, je voulais faire. Et donc, peut-être aussi, il y a moyen d'aider ces gens-là sans les médicaliser à outrance, mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être identifier chez des gros insomniaques, parce que si ça se trouve, c'est une partie du problème. Et donc, ça, c'est la génomique. C'est la génomique. Bon, le médecin généraliste traditionnel, il ne connaît pas, il n'a pas les connexions, il ne connaît pas les labos qui font ça. Bon, ça, il faut faire une recherche, il faut aller vers de la médecine fonctionnelle, et encore, tous les médecins fonctionnels ne sont pas encore à niveau, mais je peux vous dire qu'avec mes vidéos, ils ressentent une certaine pression pour se mettre à niveau, et ce sera bien, parce que vous savez, la médecine fonctionnelle, puisqu'on revient un peu au départ ici, je pense qu'on s'approche un peu de la conclusion, mais revenons à la médecine fonctionnelle. C'est quoi? C'est une médecine personnalisée. Vous allez personnaliser sans connaître le génotype. Vous allez passer à côté de choses essentielles. Ça me paraît logique. Tout est dans la personnalisation. Et ce que vous faites sans, je ne sais pas si vous réalisez à quel point, vous donnez tout un tas de conseils pour mieux dormir, mais la clé du succès, c'est que ça puisse être personnalisé. Alors comment? Mais notamment par les moyens de biofeedback. Parce que les gens essayent et ils voient ce qui marche chez eux ou pas.
Bien sûr, mais c'est exactement le message que je donne systématiquement. C'est qu'effectivement, les règles, finalement, les lois du vivant, elles sont les mêmes pour tout le monde. Mais par contre, le soin doit être personnalisé et le thérapeute doit prendre une personne. Il n'y a que cette personne-là qui fonctionne comme elle fonctionne et forcément, il faut s'adapter.
100% d'accord avec ça. Très bien dit.
Je vais pas user plus de votre temps. Je vous remercie. Puis en plus, on a fait une belle promenade. Il y avait juste une question qui me reste en tête. Si vous avez 5 minutes, je me permets de la poser. Puisqu'on était dans les hormones, j'aurais bien voulu que vous puissiez nous donner votre conseil pour les femmes qui subissent de gros changements hormonaux et notamment à la ménopause ou à la périménopause, puisque vous avez fait des vidéos là récemment là-dessus. Le sommeil, souvent, il est très dégradé. C'est très compliqué de savoir par quoi commencer. Moi, ce sont des questions qui me reviennent, mais systématiquement. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Par quoi on commence lorsque les hormones sexuelles sont complètement désordonnées?
Mais écoutez, on retombe un peu. C'est vrai que c'est détaillé. J'ai fait 2 vidéos sur la périménopause, la prise en charge de la périménopause, que je préfère appeler péri plutôt que pré, pour les raisons que j'explique dans les vidéos. Et cette prise en charge est assez originale. Elle nous renvoie beaucoup à ce que nous avons abondamment développé au début, c'est-à-dire la fonction surrénalienne. Parce que quand la femme entre en ménopause, ses hormones sexuelles qui ne peuvent pas disparaître, parce que ça, c'est calamiteux, elles doivent venir de ses glandes surrénales. Voilà, c'est simple. Mais évidemment, si les glandes surrénales sont en pleine insuffisance, comme on l'a déploré tout à l'heure, nous voilà avec un problème en plus sur le dos. Et il est évident que, je trouvais que ce n'était pas nécessairement bien d'aborder ça, parce qu'effectivement, ces problèmes de sommeil liés à la périménopause, voire à la ménopause qui est mal corrigée si elle a besoin d'une correction, ou qui est mal équilibrée si les glandes surrénales sont faibles, parce que si on a des glandes surrénales fortes, on peut éventuellement faire une bonne ménopause sans aide. hormonal. Okay, ça dépend essentiellement de ces fameuses glandes surrénales, rebelotes. Mais la périménopause va apporter des insomnies, mais qui n'intéressent que les femmes, excusez-moi, hein, ça fait 52% de la population, mais enfin, il reste 48%, et dans une tranche d'âge assez spécifique. Okay, donc, par rapport à l'individu lambda qui dort mal, c'est une sous-population. Mais dans cette sous-population, il est évident que la chute de l'œstradiol pose problème. Je trouve qu'on accorde trop d'importance à la chute de l'œstradiol. On donne trop facilement des œstrogènes d'une forme ou sous une autre. C'est un autre débat. Et on oublie la progestérone. La progestérone est l'hormone du sommeil. C'est l'hormone du relâchement. C'est l'hormone de la sérénité. Donc, toutes ces femmes qui sont en dominance œstrogénique, qui ont trop peu de progestérone, peuvent déjà avoir de l'insomnie, même avant la périménopause. A fortiori, peut-être pire encore quand elles affrontent cette période. Donc, le soutien de la progestérone est absolument essentiel. Alors, bon, on peut imaginer, surtout chez une femme qui quand même est dans sa quarantaine, etc., ou peut-être les fins de cycle, ou peut-être les syndromes prémenstruels, il y a des prescriptions de progestérone en crème ou en ovule. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut faire de la phytothérapie avec des plantes progestéroniques, c'est quand même pas mal. Si ce sont des cas légers, ça marche. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Mais vous savez quel est le précurseur biologique, la molécule nécessaire pour, avec un coup de baguette magique enzymatique, produire de la progestérone? Quel est le précurseur direct de la progestérone? Eh bien, c'est la pregnénolone.
On retombe sur nos pattes.
Eh oui. Je prescris de la pregnénolone, hein, qui demande une prescription, quand je prescris de la pregnénolone, c'est impossible de ne pas voir la progestérone s'améliorer, peu ou prou. Bon, c'est peut-être insuffisant dans un certain nombre de cas, mais en tout cas, ça va bénéficier à la progestérone. Vous voyez qu'on retombe constamment sur ses pattes.
Hein. Bien sûr.
Ce sont ces éléments. N'oublions pas, on a encore fait une boucle tout à l'heure qui était impressionnante, parce qu'on disait le zinc qui est le cofacteur de la déiodinase qui permet de produire de la T3. Mais ce zinc manque chez les stressés. C'est là le multifactoriel. Bon, maintenant, il n'y a pas 200 facteurs, hein, il faut aller les chercher. Si on a la chance de pouvoir s'offrir un bilan sanguin, et ma foi, on peut faire des petits bilans quand même à coût raisonnable. Il faut aller doser le magnésium, le zinc, ces différentes hormones, tout ce qu'on a pu expliquer. Et ça permet d'y voir plus clair et de savoir, parce que vous savez, moi j'ai des patients qui ont des déficits en zinc, mais apocalyptiques. Alors vous allez leur donner, 22 milligrammes et demi de zinc, je crois que c'est la dose légalement admise. Bon, mais on se demande pourquoi, parce que franchement, 22 milligrammes et demi de zinc, 23 milligrammes n'a jamais tué personne. Ceci dit, sur des longues durées, on ne donne pas beaucoup de quoi que ce soit sur des longues durées sans savoir. Mais enfin, pour sortir d'un problème, le zinc n'est quand même pas un grand risque. Eh bien, j'ai des patients à qui je donne 50 mg parce que j'ai documenté un déficit. Eh bien, ça ne fait rien du tout. Je dois leur donner. Et j'en suis gêné parce que normalement, on ne fait pas ça. J'explique à mes... Quand je forme des jeunes médecins, je leur dis, ne donnez pas plus de 50 mg de zinc, mais j'ai des patients chez qui je dois donner 100 mg de zinc, tellement ils sont stressés. Parce que 50 mg, ça ne change rien. Mais quand on leur a donné 100 mg pendant 3-4 mois, eh bien, le zinc remonte, ils sont mieux, vous voyez. Et alors, on n'est plus obligé d'en donner autant. Et puis, évidemment, si ça se trouve, ce sont des végétariens ou des végétaliens. Et bon, les végétaliens, je suis désolé, mais... Le zinc qu'il mange dans les végétaux, il n'est pas bien absorbé. Hein. Alors, vous voyez, il y a aussi des problèmes parfois de diète derrière tout ça et une complexité. Il y a une complexité dans la médecine, hein, parce que en toile de fond de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, il y a évidemment la diète du patient. Et si la diète du patient ne lui convient pas, il a mal aux intestins. Combien de gens n'ont pas de l'insomnie parce qu'ils ont mal au ventre à un moment donné ou l'autre de la nuit, hein. Bon, ça... C'est encore, si vous voulez, faire un podcast dans quelques mois.
Que c'est votre sujet aussi.
Ah oui, mais là vous me donnez trois heures.
Ah bah oui, bien sûr.
Vous me donnez trois heures et alors, je crois qu'à la limite, ces podcasts vont avoir un effet. somnifères puissants, parce qu'ils seront tellement longs et tellement barbants que ce sera ça, en fait, le remède.
C'est exactement ça. Vous savez, parfois, on me dit « Ah, Aurélie, vous avez une jolie voix en podcast, je vous écoute avant de m'endormir. » Alors, je dis « Bon, bah, c'est moi le somnifère du jour. » Alors, bon, au moins, j'aide d'une certaine façon, c'est déjà ça.
Et puis, il y a l'effet placebo, il y a tout qui joue.
Eh ben super, merci. Merci infiniment pour avoir évoqué avec moi tous ces sujets qui, je pense, vont parler à beaucoup de personnes. Et puis, effectivement, de toute façon, je compte faire un prochain podcast sur les intestins parce qu'il y a énormément de demandes là-dessus. Et puis, il y a, comme vous le dites, tellement de choses à dire. Et je précise que vous avez écrit un livre sur le sujet. C'est le dernier de vos livres, je crois. Vous en avez écrit deux livres, vous avez écrit ?
Quatre.
Sur les intestins ?
Quatre, oui, il y a quatre livres. Un plus du côté de la médecine du sport, ça c'est le premier. Il y a longtemps. Et puis alors, il y a écosystème intestinal et santé optimale. Bon, c'est celui-là, c'est 512 pages sur les intestins, 1400 références scientifiques. Mais il y a longtemps, mais enfin, c'est les bases. Je crois que c'est toujours reconnu comme apportant les bases. Et puis alors, depuis, il y a eu deux livres qui introduisent au concept de la médecine fonctionnelle, dont un là qui est disponible depuis pas très longtemps. Et là-dedans, il y a pas mal d'infos, c'est plutôt sous forme de blog, etc. Parce que m'asseoir 2 ans derrière un bureau pour faire un livre de 500 pages, j'ai plus tellement le moral pour faire ça, parce que je peux vous dire, j'en ai un mauvais souvenir. Mais là, il y a pas mal de choses à aller pêcher aussi. Qui aborde tous ces sujets. Et alors, il y a des gens que ça intéresse parce qu'ils se passionnent et puis ils explorent ça petit à petit. Alors, j'essaie toujours de présenter, si vous voulez, toutes ces informations avec une double entrée possible, une entrée qui n'est quand même pas interdite aux patients, qui n'est pas formé, qui découvre. Mais j'essaie de m'exprimer dans quelque chose qui n'est pas trop proche d'un jargon médical, mais il y a aussi des infos pour les professionnels de la santé. Et bon, ben vous êtes, votre parcours, vous devenez une professionnelle de la santé, Dieu sait si le sommet est important pour la santé. Et donc, dans tout ça, il y a des infos pour vous, même si vous n'avez pas un diplôme de médecin, pas
oui,
encore.
Mais pour le coup, non, c'est vrai, mais pour le coup, pour avoir acheté votre livre « Écosystème intestinal », effectivement, il y a quand même, c'est pas abordable, je trouve. Enfin, pour un premier livre sur les intestins, je pense qu'il faut s'accrocher. Mais après, quand on a l'habitude avec toutes ces notions de microbiote et puis le fonctionnement des intestins, ça devient plus abordable. Je dis ça pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient curieuses de découvrir votre ouvrage.
Ce livre Écosystème intestinal n'est pas, je trouve, moi, enfin, il y en a qui le font, mais moi, j'aurais jamais pu. C'est pas un livre qui se lit, c'est un livre où on va dans la table des matières quand on veut comprendre plus à fond un sujet donné.
Et on va piquer les informations.
Et alors là, il y a
des
infos et qui restent valables 20 ans après, parce que c'est vraiment les bases, si vous voulez, de la physiologie, de la pathologie, de toute l'étude de l'écosystème intestinal. Alors depuis, vous imaginez, parce que moi, j'ai quand même fait un peu une œuvre de pionnier à l'époque. Penser que j'ai commencé à écrire ça en l'an 2000. Est-ce qu'on parlait de l'intestin en l'an 2000? Non. On a l'impression que oui, mais je peux vous dire que non. Et maintenant, évidemment, ça devient tout. Et c'est vrai que, bon, j'insiste, quand l'intestin va, tout va.
C'est un super mot de la fin. Georges Mouton, merci infiniment.
Merci à vous.
Pour ce temps et puis pour tous vos partages.
Oui, Goliath vous remercie. Il a eu une belle promenade. Et il a quand même pu faire ce qu'il voulait, aux grandes dames de vos auditeurs. Mais bon, voilà, il faudra bien qu'il fasse avec.
Oui,
merci
à bientôt. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous appréciez ce que je vous propose, mois après mois, alors je vous invite à me laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou simplement à commenter ou à partager. Cela m'aide à être mieux référencé et à faire connaître tous ces épisodes. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.